région, le Cameroun, le Nigeria, la RDC et le Ghana, ainsi que l'Afrique du Sud. Ce sont les pays qui totalisent la plus grande partie des cas. L'autre aspect qu'il faut noter aussi, c'est que l'épidémie reste urbaine. Avec les mesures de confinement, l'épidémie est restée dans les villes, le milieu rural est moins touché. Lorsqu'on analyse de près dans les pays, on a une contamination communautaire, une transmission communautaire dans la plupart des pays, mais qui se limite aux grandes villes. Donc, il y a une progression, mais une progression beaucoup plus lente que ce qu'on avait craint dès le départ, certainement lié à des mesures prises très tôt de confinement, d'accord, des mesures de santé publique.
D'accord. Je sais que l'OMS travaille beaucoup avec les pays africains. Et l'actualité, c'est un peu la menace américaine de se retirer ou de réduire sa participation. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais les États-Unis mettent à exécution leur menace pour ce qui est de l'Afrique notamment?
Bien, avec les fonds que nous mobilisons, il faut dire que la cotisation des États membres représente à peu près 20% de notre budget. Et 80% des budgets sont recueillis par des contributions additionnelles des États membres, parmi lesquels les États-Unis restent le premier donateur. Et donc, cela va réduire un peu notre présence, parce que ce que nous apportons avec ces financements, c'est l'appui technique, mais aussi des interventions comme l'éradication de la poliomyélite parmi l'une des interventions critiques. Il en va de même pour des interventions critiques comme les programmes de paludisme qui sont aussi appuyés par ces fonds-là, ainsi que les programmes de vaccination. Donc l'appui technique va s'amoindrir, ainsi que quelques interventions critiques qui pourraient souffrir s'il arrivait qu'on ne puisse pas mobiliser des fonds pour combler le gap.
Alors, Dr Marie Mbaga, beaucoup, y compris les Nations Unies, avaient prédit un scénario catastrophe pour l'Afrique. Comparé à l'Europe et aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique s'en sort assez bien aujourd'hui?
Oui, on peut dire que pour l'instant, l'Afrique s'en sort pas mal, mais cependant, il faut rappeler deux choses qui sont importantes du point de vue de santé publique et en épidémie. Le premier cas en Afrique vient pratiquement trois mois avant celui de la Chine. L'épidémie a commencé en Chine en décembre et le premier cas en Afrique, notamment en Algérie, on le voit seulement le 25 février. Donc, cet intervalle de temps n'est pas du tout à négliger dans la progression de l'infection, surtout une pandémie qui est toujours croissante dans la plupart des pays du monde. En ce moment, toutes les courbes, comme le copanéliste l'a dit tout à l'heure, l'Afrique progresse moins...
Pas au même rythme, n'est-ce pas?
Exactement, moins rapidement que les autres, mais ça n'empêche pas que ça progresse quand même. Nous sommes aujourd'hui en Afrique à un peu plus de 90 cas pour un taux de décès moyen de 3,2%. Et les pays qui tirent, comme le prédécesseur disait, sont l'Algérie et le Cameroun, avec respectivement 7% de taux de mortalité et 4% pour le Cameroun.
Donc, alors, comment expliquez-vous le cas spécifique du Cameroun?
Vous vous rappelez certainement de cette rumeur qui disait que parce que c'est un virus qui est comme la grippe, il ne vivrait que il ne pourrait pas vivre en climat chaud et il vivrait seulement dans les pays où on sévit la grippe naturellement. Je pense que ces rumeurs et aussi le fait que ça c'était loin en Chine, puis en Europe et en Amérique, n'a pas permis aux autorités étatiques au niveau du Cameroun, par exemple, de prendre les mesures qu'il faut rapidement. Cependant, il faut dire dans la progression qui n'est pas aussi fulgurante que les autres, que l'Afrique a pris de bonnes mesures très tôt, notamment la fermeture des frontières. Et cette mesure a permis de contenir des cas qui étaient déjà importés, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes aujourd'hui dans la plupart des pays africains dans la contamination communautaire, c'est-à-dire que les personnes infectées aujourd'hui ne sont plus nécessairement en contact avec un malade dans leur famille ou dans leur environnement, ils peuvent être contaminés par quelqu'un dans la rue. Contrairement au début où tous les cas en Afrique étaient importés, notamment au Cameroun. Donc, pour faire un récapitulatif de votre question, je ne dirais pas que l'Afrique est sortie d'affaire. Toutes les courbes sont encore montantes en Afrique, notamment en Algérie, au Cameroun, en Tunisie et en Égypte. Donc il faut rester vigilant et c'est le moment de renforcer les mesures internes qui ont déjà été prises pour continuer à barrer la route au coronavirus. Et pour finir, je dirais que avec la réouverture et le déconfinement progressif qui se passe dans les pays, notamment comme le Cameroun où les vols Air France commenceront la semaine prochaine, il faut craindre aussi une augmentation du nombre de cas, y compris importés encore nos pays.
D'accord. Alors, docteur Tchenko, comme le disait votre prédécesseur, docteur Maga, on ne devrait pas crier victoire trop tôt, même si on n'est pas dans la même situation qu'en Europe ou aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique la situation actuelle en Afrique? Est-ce que c'est juste de la chance ou y a-t-il d'autres facteurs?
D'une part, disons qu'il est un peu trop tôt de pouvoir commencer à donner victoire à un continent ou à l'autre. Mais pour une première fois, l'Afrique pouvait être chanceuse. Nous avons eu la chance, d'une part, de voir l'épidémie évoluer en Europe. En Chine d'abord, en Asie, puis en France et en Italie, puis aux États-Unis. Ça veut dire que nous avons vu au moins trois modèles avant que le virus n'arrive en Afrique. Ça veut dire que ça nous a donné le temps de choisir la manière dont nous allons gérer cette épidémie. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, la chaleur et les rayons ultraviolets nous connaissons que ces rayons ultraviolets du soleil tuent certaines bactéries. Ça veut dire que la chaleur peut participer à baisser aussi le taux de morbidité et de mortalité en Afrique. Et la troisième chose, c'est que nous avons aussi des bons médicaments africains. Et peut-être que ces médicaments n'ont pas été homologués, peut-être qu'ils n'ont pas été validés par les tests qu'il faut, mais nous avons des médicaments qui, au moins, aident à tenir ce virus. Alors, ces trois facteurs, n'est-ce pas, contribuent à une progression lente au début. Mais je vous dirais quelque chose. La maladie va prendre d'autres professions en Afrique, surtout au Cameroun, où on a vu les autorités, n'est-ce pas, enlever les mesures conservatoires qu'ils avaient mises au départ. Et maintenant, je pense que le nombre est en train de monter de manière fulgurante. Nous avons commencé à chanter victoire trop tôt.
D'accord. Il faut rester vigilant. Alors, docteur Michel Yao, même si le bilan en termes de décès n'est pas aussi lourd qu'ailleurs, hein, comme le disaient mes autres invités, sur le plan économique, c'est un peu la catastrophe sur le plan économique et social. Toutes ces mesures de restriction que les gouvernements avaient prises sont en train d'être levées. Est-ce que finalement, le confinement, c'était la bonne solution pour l'Afrique?
Le confinement fait partie des mesures de santé publique, l'objectif étant de ralentir la courbe. Je pense que ce sont ces mesures de confinement qui ont permis ce décollage très lent en termes de nombre de cas et peut-être permis aussi à l'Afrique de mettre en place un dispositif de réponse assez rapidement. Malheureusement, ces mesures ont un impact sur une bonne partie des populations et donc il devrait s'agir d'une combinaison et d'une approche multisectorielle. Il aurait fallu qu'on ait des mesures pour d'accompagnement, notamment de distribution de vivres ou bien de moyens financiers pour permettre à une bonne partie de la population de pouvoir vivre et de pouvoir se soumettre à ces mesures-là. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces mesures, qu'on avait laissé la porte ouverte, on aurait probablement eu un autre scénario. Ce que nous nous proposons, c'est que ces mesures-là se fassent sur la base d'analyse. Je parlais tout à l'heure d'épidémie urbaine, et donc voir quels sont les lieux à circonscrire par rapport aux évidences qu'on a, et puis en s'assurant aussi qu'on travaille rapidement pour mettre le système à niveau, pour que le système puisse fonctionner pendant qu'on contrôle aussi l'épidémie. Je pense que c'est ce qui arrive dans la plupart des pays d'Europe où ils ont augmenté la capacité de prise en charge, la capacité de détection avec le laboratoire, mais aussi mis en place des mesures économiques, des mesures d'accompagnement par rapport aux restrictions qui sont parfois nécessaires.
Alors, tout à fait. Alors, docteur Mbaga, justement, le président béninois Patrice Talon, depuis le début, lui disait que le Bénin n'avait pas les moyens de confiner sa population. Est-ce que finalement, au vu de ce qu'on voit avec tous ces gouvernements qui sont en train de lever les mesures en Afrique, même si les cas augmentent, est-ce que toute cette situation ne donne pas raison finalement à Patrice Talon?
Raison ou pas, je ne pourrais pas me prononcer sur la situation politique du Bénin. Cependant, je corrobore ce que le prédécesseur a dit en disant que le confinement est une mesure. Oui, Dr Yao de l'OMS, le confinement est une mesure stratégique de santé publique qui a permis, qu'on le veuille ou pas, a ralenti la progression de l'infection, y compris en Afrique. Et ces mesures conservatoires de confinement, fermeture des frontières, sans aucun doute aujourd'hui dans la stratégie globale de riposte contre ce nouveau coronavirus, ont aidé à ralentir la progression. Et d'ailleurs, l'un des objectifs du confinement était de permettre aux hôpitaux et aux services de prise en charge de se décongestionner parce que on peut prendre en charge des malades quand ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça que c'était débordé, y compris aux États-Unis et en Europe, parce qu'on a eu un taux d'infection rapide tout de suite. Et l'une des mesures, l'un des objectifs du confinement était déjà de ralentir le taux d'infectés pour permettre aux hôpitaux de respirer. Et aujourd'hui, vous avez vu en Italie, dans d'autres pays, en Europe, Espagne et la France, les hôpitaux respirent désormais et peuvent prendre en charge.
Oui, justement, docteur Tchenko, certains ont commencé à évoquer cette idée qui consiste à dire qu'il faut laisser le virus circuler pour que l'Afrique puisse avoir une certaine immunité collective. Vous pensez que c'est une bonne idée pour l'Afrique ou bien c'est assez risqué?
Bon, je vais commencer par dire ma déception envers les politiciens et les hommes d'affaires. Parce que avec leur puissance économique, ils ont pu plier la main des médecins. Aujourd'hui, dans le monde entier, on ne cherche plus à éradiquer ce virus. On cherche à la mitigation. Parce qu'il y a une différence entre éradication et mitigation. L'éradication, pour éradiquer ce virus, il fallait un confinement un peu plus rigoureux, un peu plus prolongé, et l'État devait prendre en main la vie et la santé de ses citoyens. L'État a refusé d'accepter ce scénario. Alors nous sommes allés dans les mesures de mitigation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche plus à éradiquer le virus. On veut que le virus reste dans la communauté, mais à basse taux. Le taux sera un peu bas. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Tous les gouvernements ont abdiqué à leur fonction. Maintenant, vous parlez de ce qu'on appelle en anglais herd immunity, ou bien immunité dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on expose des personnes qui ont des facteurs de risque très bas. Ça veut dire que dans ce cas de coronavirus, des jeunes robustes, forts, à immunité très forte, qui vont survivre le virus et développer l'immunité et puis plus tard partager ça dans toute la population. C'est un moyen très risquant. Je crois qu'il y a certains pays en Scandinavie qui ont essayé ça et ils ont tout de suite arrêté parce que c'était catastrophique.
D'accord. En tout cas, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités à Brazzaville, Dr. Michel Yao, responsable des opérations d'urgence pour le bureau régional de l'OMS en Afrique. Ici à Washington, D.C., Dr. Marie Baga, spécialiste en santé publique, et en Virginie, toujours aux États-Unis, Dr. Constantine Tienkou, médecin, directeur médical de la diaspora camerounaise ici aux États-Unis. Alors avant de les retrouver, je vous lis quelques commentaires de téléspectateurs qu'ils ont laissés sur la page Facebook de VOA Afrique, juste quelques-uns. Jean-Luc Moukoutouf de Lubumbashi nous dit: cette course à la découverte d'un vaccin a plus de motivation économique que sanitaire, et ce sont les pays pauvres qui vont en souffrir le plus. Floribert Kubala à Kinshasa, il nous dit: la Grande Afrique a son antidote découvert par le biais de Madagascar, pas besoin de vaccin non plus. Et puis Jean Béard, toujours à Kinshasa, nous dit: Madagascar doit prouver scientifiquement que son produit est efficace contre le Covid-19. Voilà donc juste quelques-unes des nombreuses réactions de téléspectateurs, et ça nous permet justement de lancer le débat de cette seconde partie. Docteur Yao, quelle est la position de l'OMS sur le COVID organique de Madagascar?
Je pense que c'est une position qu'on prend par rapport au mandat qu'on a. Nous avons le mandat de nous assurer que tout ce qui est utilisé pour la santé humaine obéit à des règles et aussi à une certaine qualité. Et donc, pour tout médicament, le débat est simple. La première question: est-ce que le médicament est efficace? Et donc, il s'agit de faire un essai sur deux groupes, un groupe qui prend le médicament, l'autre qui n'en prend pas, et on aboutit à une conclusion sur l'efficacité. C'est vraiment le minimum. Deuxième chose: est-ce que ce médicament, à la dose où ce médicament pourrait traiter ceux qu'on prétend qu'il traite, à cette dose-là, est-ce que le médicament n'est pas inoffensif, pour les personnes qui l'utilisent? Donc voici un peu les questions qu'on se pose avant d'endosser un médicament, et pour le moment, nous n'avons pas encore ces évidences-là, c'est ce qu'on dit. Et donc, par rapport
au travail avec le gouvernement sur la plateforme,
il y a eu deux jours un débat avec notre directeur responsable des urgences, avec le président de la République de Madagascar, et nous avons finalement convenu qu'on puisse les aider à faire ces essais-là. Donc l'OMS va apporter un appui technique pour pouvoir faire un test selon les normes et les standards. Donc l'Afrique, un médicament africain serait vraiment le bienvenu, mais attention, il faut qu'on respecte aussi les standards si on veut que cette reconnaissance soit universelle. Donc c'est un peu à cela qu'on veut recadrer le débat. On ne rejette pas toute initiative, mais que cela doit aussi se faire selon les normes reconnues de façon internationale.
Tout à fait. Alors, docteur Baga, le président Ange Rajoel dit que si c'était un produit européen, on n'aurait pas eu tout ce tollé. Vous pensez que le débat se situe à ce niveau?
Non, pas du tout. Je ne pense pas que le débat se situe au niveau de produits européens ou pas, y compris parce que beaucoup de médicaments ou de thérapies sont testés au quotidien et rejetés, et puis on passe à autre chose parce que justement ils n'ont pas fait la procédure décrite par Dr Yao. J'aimerais revenir sur cette polémique d'ailleurs africaine. Alors, autant en tant que médecin de formation à la médecine moderne, je suis africaine et je crois profondément à la médecine traditionnelle. Cependant, nous les Africains, nous devons prendre nos responsabilités pour essayer de transporter notre savoir. Et transporter notre savoir passe forcément par le documenter. C'est vrai, la culture orale et de nos ancêtres nous a beaucoup aidés, mais nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'écrit et nous devons passer à autre chose. Il nous incombe, et il incombe aux dirigeants africains, de documenter ce que nous trouvons chez nous pour le transporter. Madagascar a fait ses essais cliniques au niveau de leur pays. Ça a été probant, selon ce que le président malgache nous dit. Mais non, l'étape suivante, comme le docteur Yao le disait, c'est d'élargir ces essais cliniques, soit le faire avec un groupe de patients qui prennent le placebo d'une part, et d'autre part un groupe de patients qui prennent le COVID organique, ou alors comparer l'efficacité du COVID organique avec un autre médicament, par exemple l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine, et voir quels seraient les résultats, y compris à quelle dose. Donc, pour me résumer, je dirais, l'Afrique a sa part à apporter dans cette riposte, y compris en matière thérapeutique, parce que nous avons des plantes qui ont aussi des vertus. Mais cependant, ce n'est pas seulement sous la base de nos observations dans nos pays internes qu'on va demander au reste du monde de nous faire confiance. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Et aller un peu plus loin, c'est de se soumettre aux normes scientifiques, même si les produits sont naturels ou alors traditionnels, mais les soumettre aux tests qu'il faut pour qu'ils soient homologués et validés. Et je suis d'ailleurs contente que le directeur de l'OMS ait finalement eu cette conversation avec le président malgache, et ils vont signer les accords de confidentialité pour permettre à l'État malgache de pleinement jouir des fruits de ce travail au cas où des essais cliniques qu'ils veulent faire dans toute l'étendue du continent s'avèrent être probants.
D'accord. Docteur Yao, on parle de traitement efficace, mais il y a aussi le vaccin, la recherche effrénée de vaccins en ce moment qui fait débat alors qu'on n'a pas de vaccin. L'annonce par exemple de la compagnie française Sanofi de privilégier les États-Unis en cas de découverte a suscité une polémique. Quelle est la position de l'OMS en fait? Le vaccin doit être en bien public ou c'est la loi du marché comme certains le disent?
Je pense que par rapport à l'épidémie qu'on a, la pandémie d'ailleurs qu'on a, et comme on le dit, l'épidémie qui n'est pas contrôlée à un seul endroit du monde, le reste du monde reste en danger. Il est important que ce vaccin, dès sa découverte, soit disponible pour tout et accessible à tout le monde de façon équitable. Et c'est à cela qu'on travaille et on se réjouit que la plupart des États membres qui ont participé à la dernière assemblée mondial de la santé ont confirmé cela, y compris la plupart des pays européens, qu'on fasse tout pour que ce médicament soit, si le vaccin venait à être découvert, que ce vaccin-là soit accessible et disponible pour tous. Et nous travaillons d'ailleurs avec des équipes de recherche pour que cela puisse se reproduire.
Vous êtes optimiste qu'on aura un vaccin bientôt ou ça va prendre des années?
Généralement, la découverte de vaccins prend plusieurs années, mais les équipes au niveau mondial sont mobilisées. Il y a un peu moins d'une dizaine de vaccins déjà qui sont à l'essai clinique. Il y a certains essais qui vont se renforcer pendant l'été, et donc on pourrait être optimiste que d'ici le début de l'année prochaine, qu'on pourrait peut-être probablement s'attendre à des vaccins. Mais c'est un processus qui est long, et la deuxième étape n'est pas moins difficile, c'est l'étape de la fabrication, et donc comment augmenter la capacité, parce qu'on l'a expérimenté avec le vaccin contre Ebola. Même si le vaccin a été homologué, la production ne peut pas être à l'échelle des demandes qu'on a. Et donc, c'est sur ces points-là qu'on essaie de travailler en mettant aussi des fonds de solidarité pour que si un vaccin venait à être découvert, qu'on puisse rapidement augmenter la capacité de production et permettre l'accès même aux pays qui n'ont pas les moyens.
D'accord. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie tous mes invités. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet voafrique.com. Je remercie également tous nos télépartenaires sur le continent ainsi que l'équipe technique. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.